I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va parler élections, ne vous inquiétez pas, ça va être intéressant. On va aussi parler de Elon Musk et du drama sur Twitter. Puis on aura tout le reste de l'actu tech. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est le numéro 453, on est en avril 2022 et on est de retour en live. Je peux dire bonjour à la Twitch Room, à la chat room de Twitch. Alors on va voir si je me souviens comment ça fonctionne, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas eu de live, ça m'a manqué. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, merci à tous et à toutes d'être là. On a également un des meilleurs moments de du mois du Rendez-vous Tech puisqu'on est avec Cédric Ingrand. Bonjour Cédric, comment vas-tu ?
Ça va, formidable. Je suis ravi de te remettre un peu le pied à l'étrier, tu vois, de te remettre sur le droit chemin du live.
Oui, exactement. C'est devenu un petit moment sympathique, hein, twitch.tv/notepatrick. Si vous êtes dispo le mardi à midi, bah, c'est un moment à passer en notre compagnie. On essaye de le faire toutes les semaines. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. Et comme vous pouvez également, comme Nicolas Frébourg et Sébastien Romain, vous joindre aux Patriotes, rejoindre la grande famille des gens qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvtech. Il y a aussi SSI78, le producteur du moment. Un grand, grand merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Merci à Fataghost aussi, qui nous fait des subs sur Twitch. Ça fait plein de petites emotes super marrantes à l'écran. C'est un habitué de la chose. Un grand merci à toi également. Alors, on a un programme un petit peu chargé. Évidemment, on va un petit peu parler d'élections. On ne va pas vraiment parler politique, je crois. On va plutôt parler d'élections et de trucs qui se passent, qui sont passés autour des aspects tech, hein, comme toujours. Et la première chose, c'est le... Alors, bon, il y a deux éléments par rapport à des choses auxquelles on a beaucoup l'habitude. C'est Twitter et Twitch, les deux tweets. Le premier, c'est un truc qui n'est pas très, j'allais dire pas très controversé, mais toi, tu viens du monde des médias traditionnels, donc peut-être que ce que je vais te dire ne va pas plaire. J'ai suivi la soirée électorale sur Twitch. J'ai jonglé entre les chaînes de Samuel Etienne et Hugo Décrypte. Et je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Décrypte, il fait un travail incroyable. En fait, il s'approche un petit peu de ce qu'on fait à la télévision. Il a un plateau avec des invités, machin. Et il a suivi la campagne avec des émissions vraiment intéressantes sur toute la durée. Et là, pour la soirée électorale, il avait négocié avec l'IFOP l'accès au sondage au moment, enfin aux estimations, aux premières estimations à 8 heures au moment où on révèle les premiers chiffres sur les grandes chaînes nationales. Et donc, il l'a fait aussi avec le countdown et tout. C'était marrant. Sauf que c'est fait dans une ambiance Twitch avec, en fait, des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont très sérieux. C'est des gens... C'est marrant parce que je me rends compte que j'ai aujourd'hui un certain âge. Parce que, tu vois, les gens de 25-30 ans qui sont très loin de mon âge à moi sont des gens sérieux, qui ont des carrières, qui ont des métiers, qui parlent bien, tu vois, tout ça.
C'est important parce que tu leur dis « Bonjour, jeune homme, alors ?»
c'est marrant parce que c'est aussi un petit peu le public de l'émission. Donc, je suis honoré que vous me suiviez quand même. Mais du coup, moi, j'ai eu une expérience de soirée électorale qui était très différente de ce que j'ai fait par le passé. Et j'avais... Oh ! Merci, un patriote qui s'abonne en direct, c'est incroyable, on a la notification. Merci beaucoup, Kirkland House, ça arrive très rarement, un patriote qui s'abonne pendant l'émission, et donc je peux remercier maintenant, merci beaucoup Kirk, tu es hyper sympa, et en plus ça montre que le système qu'on a mis en place avec Kevin fonctionne, c'est fou, merci beaucoup. Donc, ouais, moi j'ai regardé sur Twitch, et J'irai pas jusqu'à dire que j'ai pas besoin de la télé, mais c'est un petit peu ça. Cédric, toi, j'imagine que tu étais en train de regarder une grande chaîne traditionnelle. Enfin...
Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé LCI sur mon smartphone, pour tout dire, mais avec un œil aussi, évidemment, sur Twitter et ailleurs. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, tu dis, regardez, moi, j'ai regardé ça sur Twitch, donc forcément, c'est très différent. Tu remarques qu'en gros, ce qui a fonctionné le mieux, c'est des choses
qui s'approchent de ce qu'on fait à la télé, oui.
Oui, voilà, qui en tout cas utilisaient les mêmes codes, hein, quand c'est pas des gens qui en viennent directement, parce que Samuel Etienne, si tu veux, peu importe le plateau ou peu importe la caméra, pour lui, l'exercice est à peu près le même, ouais. Même si évidemment, t'es plus détendu sur Twitch. Et
tu sais, je dirais que Samuel Etienne, il fait du Twitch classique, lui devant la caméra et il commente avec la chatroom. Mais Hugo Décrypte, il s'approche encore plus de la télévision. Hein,
bien
Hugo
sûr, Décrypte, là, c'est juste Twitch comme un moyen de diffusion, on n'est pas... Alors, t'as une interactivité qui est, j'ai envie de dire, tu vois, baked in, un peu embedded dans le truc, mais ce serait pareil sur une chaîne YouTube.
Ouais, c'est vrai, mais c'est quand même fait avec, je sais pas, un ton, une ambiance différente. Moi, j'ai trouvé, et c'est peut-être juste une question de génération, mais j'ai trouvé que la manière dont Hugo Décrypte le faisait était, je sais pas, c'est peut-être plus rafraîchissant, ou j'ai trouvé ça moins, un peu pataud, un peu, même un peu, tu vois, c'était des gens qui parlaient d'une manière qui était un petit peu plus, même s'ils parlaient très sérieusement, mais tu sentais que c'était des gens qui étaient d'une génération différente, quoi. Et c'est peut-être juste ça qui fait que moi, je l'ai reçu différemment, mais...
Bien sûr.
L'autre truc, c'est Twitter et la question de la bulle Twitter que beaucoup de gens ont constaté. Certains s'en sont un petit peu moqués après coup. Parce que c'est vrai que moi, encore une fois, la question de les auditeurs qui sont relativement jeunes, en regardant mes flux Twitter, j'avais vraiment l'impression que Mélenchon allait gagner au premier tour avec 85%.
Dès le premier tour.
C'est ça. Oui. Et parce que vraiment...
Un peu à la Maduro, en fait, donc finalement...
mais un peu, tu vois, en regardant mon univers Twitter, c'est vraiment pas le même monde. Et je le sais, tu vois, c'est pas comme si je sors de nulle part et je découvre Twitter et je comprends pas les bulles des réseaux sociaux. Mais même en le sachant, je me disais, ah ouais, quand même, il y a un truc... c'est vraiment une fracture énorme entre le monde de Twitter et le monde réel. Et je parle même pas du fait qu'il y a 30% de la France qui vote pour l'extrême droite, tout ce genre de choses. Vraiment, juste, si on essaye d'avoir une représentation de ce qui se passe dans le pays en regardant Twitter, bon, évidemment, tous les Twitter sont fractionnés en fonction des gens que tu suis, mais c'est juste pas du tout représentatif, et je l'ai constaté une fois de plus avec cette élection. Et c'est un truc qui est bon à garder à l'esprit pour l'avenir aussi, quoi. Mais je sais pas, c'est encore un des trucs qui m'a frappé.
Déjà, il est rassurant de voir que tu n'étais pas persuadé en regardant Twitter que Zemmour allait gagner au premier tour. Il que tu te poses des questions
sur ma bulle
informationnelle, maybe I need new friends. mais c'est normal. C'est ce que moi j'explique souvent à des jeunes journalistes, tu vois, qui s'émeuvent en disant mais regarde, il y a un mec sur Twitter, il a été méchant sur mon reportage. Oui, non, mais alors attends. D'abord, les gens qui sont sur Twitter et qui s'expriment sur Twitter sont déjà un sous-ensemble un peu particulier de la population. C'est pas Monsieur Tout le Monde, ça n'existe pas.
Et c'est un petit réseau en plus par rapport aux
autres.
Oui,
mais ce que je veux dire, c'est il fut un temps à TF1 où il y avait un accueil téléphonique absolument remarquable, où les gens appelaient, tu vois, pour dire mais je suis pas d'accord, pourquoi est-ce qu'il a mis un polo rouge, le journaliste, est-ce que ça veut dire qu'il est communiste, tu vois, ce genre de choses. Et idem dans les magazines où j'ai travaillé en tout début de carrière, les gens qui t'envoyaient du courrier étaient déjà pas représentatifs du lectorat. Bref, il faut pas s'en émouvoir. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas tant la bulle des gens qui sont sur ton Twitter feed. C'est juste que les gens qui, par exemple, demandent du changement parlent toujours plus fort que les autres. C'est un petit peu normal. Et je pense pas qu'il faille s'en émouvoir outre mesure. Et puis, en plus, on l'a vu, il y avait d'abord les soutiens, j'ai envie de dire, réguliers, normaux, etc. De Mélenchon. Et puis alors, il y avait ceux qui faisaient du billard à trois bandes en disant bon, finalement, moi, je voterais plutôt Macron, mais je vais peut-être voter Mélenchon, comme ça, on va peut-être essayer d'éliminer Marine dès le premier tour. Bref, c'est un peu normal que ça ait fait plus de bruit que d'habitude.
Bah oui, c'est ça que je... C'est pas que je m'en émeuve, c'est juste que ça m'a surpris alors que je devrais savoir. Tu vois, c'est ça qui est... J'ai l'honnêteté de dire, je le savais, et pourtant, Y a beaucoup de gens qui disent je m'attendais à rien et pourtant j'ai été déçu. Ben là, je m'attendais pas, je m'y attendais pas et j'ai été surpris. Mais bon, cette petite parenthèse refermée, ce dont je voulais parler, c'était le vote électronique. On en parle régulièrement, hein, ça fait des ouais. années que la question revient à chaque élection et même entre les élections, en particulier dans les sphères tech. Et j'ai vu repasser des gens appelés à l'avènement du vote électronique qui aurait tant d'avantages. Et je pense que c'est une bonne occasion de réexpliquer pourquoi les défauts sont plus importants que les avantages pour le vote électronique. Il y a deux, allez, on va dire trois catégories qui sont notables dans le vote électronique. Moi, personnellement, je pense que ça serait très dommageable. Hein. Je ne sais pas sur quelle ligne tu te situes, Cédric, mais moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est l'une des pires fausses bonnes idées. L'une des choses qu'on dit souvent, c'est ça peut être un remède à l'abstention. Le problème, c'est que l'abstention, oui, elle est peut-être causée par des problèmes d'accès au bureau de vote, c'est possible, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de désintérêt. Et le vote électronique ne résout pas cette partie du truc. Mais bon, admettons que ça permette de combattre une partie de l'abstention. Pourquoi pas ? Ça serait un des effets positifs. Les effets négatifs, par contre, c'est d'une part, au niveau technologique lui-même, il y a un problème de traçage. Et il y a un problème de sécurité. Le problème de sécurité, on le comprendra bien, un système électronique, il est relativement centralisé et surtout un petit peu obscur. Et ça veut dire que, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais aucun système informatique n'est entièrement sécurisé. Il y a toujours un problème potentiel. Et en plus de ça, un système comme ça est compliqué parce que les gens ne comprennent pas les programmes informatiques. Et donc, ça pose un problème de confiance dans le système. On peut déjà qu'on a des problèmes de complotisme quand le système est relativement simple. Si on en crée une sorte de boîte noire insondable, évidemment, ça pose un problème aussi. Et concrètement, un système peut être très, très sécurisé, mais aucun n'est entièrement à 100% sécurisé. Donc, on a des points de faille, des maillons faibles qui sont beaucoup plus problématiques qu'avec des systèmes physiques de bulletins de vote où, oui, bien sûr qu'on a des fraudes, et on le sait, hein, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus compliqué de frauder à grande échelle quand même parce que bah, ça se voit, il y a des systèmes redondants, etc. L'autre problème au niveau technique, c'est la question du traçage parce que le papier physique, il est facile à recompter, on le voit et on peut vérifier les comptes. La trace électronique, bah, pour tracer, pour être sûr que ça s'est bien passé comme ça, une fois que c'est altéré, bah, si c'est altéré ou même une fois que c'est pas altéré, pour vérifier la chose, sincèrement, c'est quasiment impossible. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, oui, on pourrait faire des systèmes de blockchain et de machin qui sont des trucs inaltérables. Mais bon, c'est à vrai dire, d'une part, c'est un petit peu le même problème parce que le résultat, il peut être manipulé avant l'entrée dans la blockchain, etc. Il y a tout plein de soucis de ce genre. Puis bon, ça ne règle pas tous les problèmes des systèmes informatiques. Donc, le papier, et il y a des systèmes avec des machines de vote qui sont différentes du vote électronique à distance, hein, mais les machines de vote qu'on sécurise avec des sorties papier ensuite pour garder des traces de ce type-là. Mais vraiment, le traçage et le recomptage est très problématique si on n'a pas de sortie papier avec les machines de vote et avec le vote électronique à distance. Donc ça, c'est les deux problèmes techniques. À côté de ça, il y a deux problèmes presque de philosophie. D'une part, celui qu'on a déjà évoqué, de la confiance dans le système. Pour la confiance, vous savez, je vous disais, tous les systèmes sont faillibles, les systèmes informatiques. Quand on a des données personnelles qui fuitent, bon, bah, c'est un peu chiant, mais ce n'est pas la fin de la société. Quand on a Twitter qui est down pendant 24 heures, on ne sait plus où aller tweeter nos mécontentements. Mais là encore, ce n'est pas la fin de la société, même si ça y ressemble pendant que le service n'est pas disponible. Si on a une faille dans le système de vote, littéralement, ça peut être un problème existentiel pour la société. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux auquel la barre de sécurité, on va dire, ne peut pas être monnayée. On est dans des trucs où il faut mettre la sécurité très, très haut. Et puis, il y a aussi l'autre chose, et je te laisse la parole après, Cédric, si tu auras des choses à ajouter. La dernière chose qu'il faut évoquer, à laquelle les gens ne pensent souvent pas, c'est le secret absolu de l'isoloir. C'est-à-dire que le système de vote tel qu'il a été conçu et tel qu'on l'utilise aujourd'hui est extrêmement fort sur le fait que la personne qui vote peut le faire sans aucune pression extérieure. C'est-à-dire que vraiment, on rentre dans l'isoloir et à ce moment, on est seul avec sa conscience. Personne ne peut vous dire à ce moment-là pour qui vous devez voter. Personne ne peut regarder. Personne même ne peut jamais savoir pour qui vous avez voté. Ni ensuite, ni avant, ni après. Enfin, quand vous avez mis votre bulletin dans l'enveloppe, vous votez vraiment pour la personne que vous choisissez en votre âme et conscience. Et quand on instaure les systèmes de vote électronique, en particulier à distance, on ne parle pas de machine de vote là, mais ça veut dire qu'on va voter de chez soi. Ça veut dire, bon, au-delà du fait qu'il faut qu'on ait les machines pour, tout le monde n'a pas de téléphone portable, etc. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais quand on va voter de chez soi, sur son téléphone ou sur son ordinateur, il y a peut-être des gens à côté, il y a peut-être la famille qui regarde, qui conseille, qui désapprouve, la femme ou le mari qui n'est pas du même bord ou ce genre de choses. Et concrètement, le système de vote encore aujourd'hui, tel qu'il a été conçu, est celui qui permet de protéger le plus, même si on envisage des alternatives informatiques, c'est celui qui permet de protéger le plus l'intégrité, la traçabilité du vote et le secret du vote. Et vraiment, l'isoloir, c'est tout con, c'est un rideau et trois bouts de papier, mais c'est le système qui protège le plus le secret de votre vote. Et pour que moi, j'en parle à chaque fois de cette manière, on plaisante dans la chatroom, il y a quelqu'un qui dit au vote électronique, l'isoloir s'appelle les WC. Je sais que c'est rigolo, mais voter de chez soi dans la famille avec quelqu'un qui dit oh « bah, fais voir, attends, c'est bon ou qui te regarde pendant… » Vraiment, c'est pas un choix de rentrer dans l'isoloir avec plusieurs papiers et de mettre le papier dans l'enveloppe sans que personne regarde. C'est une obligation. Et c'est une obligation justement pour qu'il n'y ait pas d'alternative et que personne ne puisse vous dire ou regarder ce que vous faites ou vous dire quoi faire, etc. C'est un système qui est contraignant pour assurer le secret du vote pour tout le monde. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent, qui prennent qu'un seul bulletin. Il y avait une plaisanterie assez marrante qui traînait sur Twitter avec quelqu'un qui disait « Alors, j'ai pris un bulletin de machin et on m'a dit « Ah ben, faut prendre d'autres bulletins. » Et donc, j'en ai repris deux du même. Et moi-même, il m'est arrivé quand j'étais plus jeune de prendre un bulletin et de dire, pas par provocation, mais juste me dire oh, « bah, je sais pourquoi je vais voter, je m'en fous, j'en prends qu'un. » Ben non. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je prends plusieurs bulletins parce que c'est important de s'assurer que le secret du vote soit universel. Bref, pour toutes ces raisons, le vote électronique, c'est vraiment la fausse bonne idée. C'est une sorte de solutionnisme. Et pour que moi, je vous dise ça, que c'est du solutionnisme tech, alors je le dis de temps en temps, mais moi qui suis fan de tech, je vous assure que j'ai beaucoup étudié la chose et je vous assure qu'il y a peu de domaines dans lesquels je vous dirais là, il ne faut pas mettre d'informatique. Le bout de papier, c'est la chose préférable. Et en l'occurrence, ben, je pense que c'est vraiment le cas.
Eh bien, tu m'as tout retiré de la bouche. Donc non, mais je suis d'accord sur un point, c'est ça. Moi aussi, j'ai une sorte de tendance naturelle qui est à la limite de la déformation professionnelle d'aller chercher, tu vois, de faire du solutionnisme technologique en disant « Attendez, on va trouver la solution ». Et ça fait quoi, plus de 20 ans que je fais des sujets sur le vote électronique. Ça existe, le vote électronique, hein, ça se fait pour certains trucs, mais pas pour des choses soumises au suffrage universel. Tu vois, ça se fait pour des élections d'entreprise, pour des machins, pour plein de trucs, des consultations plus informelle, etc. Et il y a plein de plateformes, il y a plein de systèmes, il y a plein de trucs qui fonctionnent très bien. Mais tu l'as dit, et je vais juste le résumer, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire dans un système entièrement électronique et à distance les mêmes garanties, les mêmes garde-fous et la même confiance qu'on peut avoir dans le vote aujourd'hui. Genre le vote, il faut qu'il soit, tu l'as dit, secret. Donc il faut que tu puisses voter dans ton coin, ce qui n'est pas forcément le cas si tu le fais à distance. Il faut surtout arriver à en sauvegarder la confiance. C'est-à-dire que c'est facile de dire « Ouais, regardez, on a un résultat. Ah bon, et pourquoi ?»« Bah, parce que la machine a dit que c'était le résultat. »« Oui, mais on peut recompter ?»« Bah non, la machine dit que c'est le résultat. » Et tu vois, « Computer says now. »
C'est une question de confiance. Et à vrai dire, on a vu, excuse-moi, je t'interromps juste une seconde, on a vu des partis politiques faire des fraudes. Et c'était des partis politiques qui sont dans le sein de la République. Imaginons des gens qu'ils soient moins, et je ne parle pas des élections d'aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si on l'instaure, ça, c'est plus facile à manipuler, également par les gens qui sont déjà en place. Donc c'est important.
Oui, et puis, non, mais surtout et on le voit déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout virtuel, on voit, il y a des gens qui ont été candidats là, à cette présidentielle-là, et qui, une semaine avant, te disaient, de toute façon, il va y avoir de la fraude, c'est pour ça qu'on va perdre. Mmh. Évidemment, c'est des arguments qui pissent pas loin, j'ai envie de dire. Quand tu peux revérifier bureau de vote par bureau de vote, le nombre de votants, le nombre de bulletins, etc., etc., et qu'il n'y a pas d'équivoque, si c'est juste une machine qui, à la fin, te dit, bah, machin a gagné, et puis voilà. Ah bon, mais on peut vérifier. Ouais, enfin, si vous voulez, voilà le fichier, mais c'est moi qui l'ai généré, donc c'est voilà. Et du coup, tu ne recrées pas les conditions de la confiance et de la vérifiabilité pour tout le monde. Et j'ai envie de dire à hauteur d'homme, c'est-à-dire que là, voilà, tu peux te mettre à 5, tu peux reprendre tous les bulletins de ton bureau en disant, alors voilà, sur le registre, on a compté, il y a eu 72 votants, tu vois. Et ben, nous avons 72 bulletins, et ça fait donc bien ça. Et ça, la machine n'arrive pas à le recréer de manière convaincante, si, parce que technologiquement, c'est pas compliqué, c'est vraiment
oui,
facile.
Oui, sur le papier, oui, bien sûr, il y a des solutions.
À 20h01, on aurait le résultat global, national, etc. Il n'y aurait pas de gens qui veilleraient jusqu'à 2h du matin pour voir si les courbes vont se croiser. Mais malheureusement, on n'aurait pas la même confiance dans le vote. Et là, le problème, ce n'est pas l'efficacité, le problème, c'est la confiance. Oui. Et donc, voilà, on reste sur des bulletins. Alors, c'est con, parce que de fait, c'est... Enfin, tu vois, c'est quand même beaucoup de trucs à imprimer, c'est plein,
oui,
voilà,
mais oui.
Mais voilà, on reste dans un rituel républicain qui a ses raisons. Je sais, moi, j'ai déjà eu des discussions avec des camarades, des confrères, qui disaient, ce serait facile de faire de... Oui, ce serait facile, mais le problème, c'est que tu te retrouverais toujours face à une andouille, un Dupont-Aignan, un machin, qui dit, ouais, de toute façon, regardez, la machine, elle a été payée par machin, et son investisseur, ouais, il vient de là, et donc, c'est George Soros, tu vois, enfin, voilà. Bon. Donc, c'est pas la peine de donner un peu de corde à ces gens-là.
Et puis, j'insiste sur ce point aussi, la question du secret. Tu as bien résumé la question de la confiance. Je répète, la question du secret, c'est pas... Enfin, je veux dire, il y a plein de gens... Je ne sais pas, vous venez d'une famille qui est plutôt de droite, dans laquelle, traditionnellement, on vote à droite. Et vous êtes sensible aux problématiques de la gauche. Bah, vous dire, non, moi, je vais aller voter aux toilettes, ou je vais juste aller voter dans ma chambre, c'est peut-être pas, on va te demander, attends, mais pourquoi pourquoi on va être suspect, tu vois, ça peut arriver.
J'ai ouais, tu nous gauche, fais pas confiance
fait... Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu nous caches?
Non, exactement. Et je dis droite gauche, ça peut être l'inverse, évidemment, mais...
Toi, comme moi, on vit avec des gens normaux, mais il y a plein de gens qui vivent dans des familles abusives, enfin, tu vois, c'est pas... Oui, donc, non, c'est déjà... déjà chaud aujourd'hui dans la vie réelle. C'est pas la peine de mettre du lait sur le feu, de l'huile sur le feu, pardon, sur le feu. Le lait sur le feu, c'est le truc que tu surveilles, mais ne mettons pas de lait sur le feu. Voilà.
Bon, parlons un petit peu de Elon Musk. Tiens, et je vais faire un petit...
Ça faisait longtemps.
On a fait un épisode il y a 2 semaines sur les véhicules électroniques, les électroniques électriques, ceux-là même, c'est pas comme le vote, les véhicules électriques. Et à propos du rapport du GIEC, on parlait des problèmes et des doutes qu'on a sur les véhicules électriques notamment. Et le GIEC a dit, entre autres choses importantes, que le plus grand potentiel de décarbonisation dans le transport terrestre, c'est le véhicule électrique sur son cycle de vie. Évidemment, il faut qu'il soit alimenté par une électricité à faible émission, avec un niveau de confiance élevé. Ils donnent des niveaux de confiance différents pour leurs différentes suggestions. En l'occurrence, c'est le GIEC qui dit les véhicules électriques, pour décarboner, pour éviter les émissions, c'est clairement l'une des choses vers lesquelles... Enfin, c'est plus que l'une des choses. C'est le plus grand potentiel de décarbonation pour les transports terrestres. Donc j'espère que ça mettra un petit peu les gens d'accord. Si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez aller écouter l'épisode spécial qu'on a fait il y a 2 semaines avec Cédric.
Qui était de grande qualité et qui a dû connaître un succès immense, si j'en crois mon flux Twitter.
Ton flux Twitter.
Et le nombre de gens qui sont venus me dire « Non mais alors, vous avez raison, mais vous avez tort. Oui. » Non, je plaisante. J'ai eu plein de gens absolument charmants.
Ouais, moi voilà, aussi.
Avec lesquels on a continué des discussions démarrées dans
Mais du coup, on parle de Tesla parce qu'on va parler de Elon Musk. et du personnage controversé d'Elon Musk. On vous disait la semaine dernière que Elon Musk avait acheté 9,2% des actions de Twitter. Eh bien, quelques jours après, ça a été un vrai feuilleton drama, quelques jours après, Parag Agrawal annonce que Elon Musk va, c'est le président actuel de Twitter, il annonce que Elon va rejoindre le board de Twitter et que c'est lié, entre autres, à une promesse de ne pas acquérir plus de 14,9% des parts. Entre parenthèses, il est déjà le plus grand actionnaire de Twitter. Il n'y a pas d'actionnaire majoritaire à la société, c'est lui qui a le plus grand nombre de voix. D'action, même s'il n'est pas majoritaire. Et donc, on se dit, ah bah, ok, donc il va arriver au board, commencent les mêmes, Elon Musk avec sa cigarette de cannabis, la photo bien connue, au board, ça va être marrant, machin. Et il y a 2 jours, retournement de situation, après que Elon Musk se soit mis à tweeter plein de choses, enfin il s'est mis à troller et à shitposter, c'est ça le terme, hein, à shitposter sur Twitter, genre, hein. À propos de Twitter, de manière assez insupportable, je trouve. Il a fait plein de questions, genre, est-ce qu'il faudrait donner une checkmark à tous ceux qui sont abonnés à Twitter Blue ? Est-ce que Twitter est en train de mourir avec oui ou peut-être ? Est-ce qu'il faudrait qu'on convertisse les bureaux de Twitter à San Francisco en bâtiments d'accueil pour les personnes sans-abri parce que personne n'y va de toute façon, etc., etc. Et il y a 2 jours, Agrawal reprend son tweet et poste un truc pour dire « Bon, bah finalement, Elon Musk, il va pas venir au board. »
Tout bien réfléchi.
On pensait que ça serait une bonne idée. Et puis finalement, il va pas venir au board avec 2 choses qui sont intéressantes à noter dans sa petite lettre. D'une part, le fait de le mettre au board, enfin au conseil d'administration, hein, je dis board tout le temps, mais conseil d'administration, il faudrait un background check d'Elon Musk, et ça lui donnerait une responsabilité fiduciaire à agir dans le meilleur intérêt de la société.
Il faut expliquer ce que c'est qu'une responsabilité fiduciaire, c'est ça.
Oui, vas-y.
C'est une obligation légale, quand tu la déclares, à agir dans l'intérêt, là, en l'occurrence, de la société. Mais c'est que, par exemple, tu as des conseillers en investissement qui ont, à ton égard, une obligation fiduciaire. Certains ne l'ont pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre des produits qui les avantagent eux. Si ton banquier a une obligation fiduciaire, ça veut dire qu'il n'est là que pour travailler dans ton intérêt à toi. Bref, et là, c'est compliqué. Je pense que c'est là-dessus que ça a un peu à choper. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que Elon a envie de prendre plus de capital de Twitter ? Moi, je sais pas. Je suis un peu étonné parce que, tu vois, c'est pas comme si Elon Musk avait beaucoup de temps libre, déjà, dans l'ensemble.
Écoute, si on en croit son Twitter, il passe quand même beaucoup de temps à shitposter sur le... Sur le
ouais,
réseau,
mais hein. Il a des petites pauses et il n'a pas beaucoup de filtres entre le moment où il a une idée et le moment où il la tweet. mais le reste du temps, quand même, il a un agenda qui est découpé en zone de 5 minutes, si tu veux. Donc quand même, c'est un peu chaud. Et puis voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, rien. Il a lancé 2 fusées. Il a ouvert sa plus grande usine de sa vie à Austin. C'est-à-dire que moi, je suis époustouflé par son emploi du temps et sa donc, capacité de travail.
Toi, tu penses que c'est un non-événement, cette histoire ? Moi, je pense que c'est quand même. Enfin, non.
Ah, mais d'abord, d'abord, faut retomber sur terre. C'est que Twitter. c'est pas important.
Ouais,
Twitter.
Alors,
tu vois ce que je veux dire.
Oui, et en même temps, non. Je veux dire, Twitter, ok, ça représente des bulles, ça représente une faible partie de la population, mais c'est quand même un vecteur de communication et d'idées qui est hyper important. Pour le meilleur et pour le pire, on l'a dit à de nombreuses reprises. Et puis, il y a plein de choses qui sont passées sur Twitter. Je veux dire, les hashtags, non, les Black Lives Matter, les MeToo.
Mais ce que je veux dire, c'est que si ça fermait demain...
Tu ne peux pas juste dire que Twitter,
si Twitter est contrôlé tout à coup par
Elon Musk, si on parle en science-fiction, ça aura des conséquences, tu vois.
Oui, bah, oui et non, parce que si tu veux, maintenant, il y a des lois. Ce que je veux dire, c'est que Twitter, au sens de si ça ferme demain, un autre prendra sa place. Mmh. C'est pas très grave. Et puis en plus, c'est quand même un truc qui est géré un petit peu... Enfin, c'est pas, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas passé des trucs vraiment nouvelles et intéressantes sur Twitter. Il y en a plein qui demandent à Twitter, par exemple, de devenir un système purement sur abonnement. D'abord parce que, tout à coup, ça mettrait fin à, pas forcément au pseudonymat, mais ça mettrait fin à l'anonymat de certains. C'est, voilà, ce serait, ça mettrait fin aux bots, à plein de choses. Et donc, ce ne serait pas inintéressant. Et puis, il y aurait un business à faire, parce que si, par exemple, Elon, il a quoi ? Il a 80 millions d'abonnés, c'est-à-dire qu'il a quand même un gros parleur. Tous ces gens qui ont beaucoup d'abonnés seraient probablement prêts à payer pour les garder. Il pourrait y avoir un système économique comme ça où on dit voilà, toi t'as 80 millions d'abonnés, bah, ça va te coûter 500 000 dollars par mois. Tiens. Oui. Et mais donc lui a des idées qui sont aussi parfois de cet ordre-là sur le business du truc. C'est pas illégitime. Après, il a un côté assez maximaliste sur la liberté d'expression qui, à mon avis, se heurterait aussi à des lois et règlements pays par pays. C'est-à-dire quand tu rentres dans une gestion un peu plus granulaire du truc, ça devient plus compliqué. Mais on avait vu un même Jack Dorsey, le cofondateur, quand Elon a annoncé qu'il avait pris 9% de la maison, avait dit, bah voilà, moi je trouve ça chouette, surtout que lui, évidemment, a pris un peu de recul. Mais voilà, après, je pense que je suis pas sûr que ce soit Twitter qui l'ait gentiment repoussé. Le côté du background
non,
check, je sais pas ce qu'une enquête de moralité va nous apprendre sur Elon Musk, tu vois, whatever. Je pense surtout qu'il a dû se rendre compte qu'il n'en avait pas le temps, quoi.
On s'en doutait. Hein. Comme je disais en préparant, tu es un Elon Stan et tu le défendras coûte que coûte.
Non, pas du tout. Non, parce qu'il a plein de limitations et de trucs et de voilà, son côté sans filtre est parfois vraiment abrasif et parfois il devrait voilà tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de tweeter. Enfin bref, et il le fait pas et voilà, il est comme ça. Bon, ça donne parfois des fulgurances absolument formidables et puis parfois des trucs où tu dis non, pourquoi tu fais ça, t'es con,
ouais.
Enfin, voilà.
Écoute,
donc voilà, je défends pas le truc, mais je suis pas très étonné. C'est-à-dire qu'il va garder un rôle d'aiguillon parce qu'évidemment, plus gros actionnaire privé du truc, et puis en plus actionnaire personnel, c'est-à-dire que c'est pas juste un fonds d'investissement, ce qui va lui permettre d'agir un peu et puis je sais pas de demander certaines évolutions, mais ça se fait de manière absolument courante, même sur d'autres sociétés, sur d'autres problématiques. Voilà, après qu'il soit au board ou qu'il soit pas au board, honnêtement ça change pas grand chose.
Bon, écoute, je te trouve assez soft sur notre ami Elon, donc je vais me faire un tout petit peu. C'est l'arrivée de l'avocat du diable. Vous l'attendiez. Moi, je trouve que c'est plus que ça, quand même. Je me fais l'avocat du diable un petit peu pour le principe, mais aussi, je le pense, c'est pas juste qu'il dit des trucs un petit peu marrants parfois. C'est un shitposter professionnel, il fait des mèmes tout le temps pour tout. Et le problème, c'est que c'est pas juste un random qui sort de nulle part et qui n'a aucune influence, c'est même pas juste un petit, je sais pas moi, un chanteur ou un twitcher, ou enfin je sais pas, un truc qui soit porté par un certain public. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'influence et qui a dans les mot impérissable de la pop culture, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et lui, il est plutôt, je trouve, un agent du chaos, si on veut. Je suis l'avocat du diable, hein, donc c'est un agent du chaos de l'école poutinienne. J'exagère. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu genre, politiquement, mais de toute façon, on s'en fout, rien n'a d'importance. Regardez, la SEC, c'est des clowns, ils m'imposent des trucs, moi je les respecte pas. De toute façon, on va se. Comment dire ? Sur Twitter, est-ce que vous voulez ? Tu vois, il disrupte une société qui est établie, et avec son pouvoir et son influence, il joue le bully en disant : est-ce que vous voudriez que Twitter fasse ceci ou cela ? Et du coup, tu as ces hordes de fans un petit peu aveuglés par leur amour. C'est dans la mouvance des NFT, des crypto-monnaies. Et c'est des trucs qui sont... les fans de Musk, ils sont un petit peu... comment dire ? Je ne vais pas dire que c'est une secte, mais ils sont Musk ne peut rien dire de mal. Et quand il dit quelque chose, ça se traduit par des mouvements en bourse, ça se traduit par des... Tu vois, c'est
ce que je disais, le gros haut-parleur.
C'est un haut-parleur qui a des conséquences. On me dit dans la chatroom, c'est plutôt comparable à Trump. Il est oui, j'exagère en disant Poutine, mais je veux dire du chaos. Genre, de toute façon, rien n'a d'importance. Le pouvoir au peuple, machin. Et pendant ce temps, quand il tweet, oh, est-ce que je devrais racheter des actions Tesla à tel prix ? Eh ben, les actions, le prix, il monte. Tu vois, c'est pas, et il s'est fait taper sur les doigts par la SEC pour ça. Et il s'en fout. Mmh. Il s'en fout. Il y avait une décision une décision de la FTC, de la SEC, qui lui imposait de faire valider ses tweets par un commissionnaire, en quelque sorte. Et il n'a jamais été contraint par la chose.
Il devait valider ses tweets quand ça touchait Tesla.
Oui, et il a tweeté Tesla après.
Je crois qu'il l'a fait. Il y a eu une ou deux fois où on s'est posé la question, mais disons que il s'est largement calmé là-dessus.
Et c'est un petit peu une mouvance qu'on retrouve ailleurs également. On a Andreessen qui est un investisseur. Un venture capitaliste très important dans la Silicon Valley.
Il y a Peter Thiel. Un capital risqueur, on dit en français.
Pardon ? Un capital risqueur. Peter Thiel, qui est lui aussi un capital risqueur peu plus proche de Trump, même très proche de Trump.
Très proche de Musk. Hein, ils ont entrepris ensemble il y a très
Complètement.
Longtemps.
Et on a un petit peu un groupe d'investisseurs de ce type qui se met à... à pousser des idées qui sont disruptives sans grand regard pour la légalité de leurs actions ou même de ce qu'ils proposent. C'est toute la... Andreessen a énormément investi sur le Web3 et les crypto-monnaies et la blockchain.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est assez ironique parce que on dit souvent que la décentralisation, machin, ça permettrait de ne plus être contrôlé par des entités uniques ou la Silicon Valley ou Washington ou ce genre de choses. On parle beaucoup de ça aux États-Unis. En attendant, c'est Andreessen qui a quand même la main mise sur une bonne partie de ce monde-là.
C'est un chouette sujet, on en reparlera, mais faut pas oublier que ces gens-là sont pas en train de militer pour la liberté absolue et l'anarchie libertaire. Non, ces gens-là sont en train d'essayer de créer des monopoles non régulés. Ça n'a rien à voir.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je parle de responsabilité. Ce que disait Musk, c'était littéralement sur Twitter. Est-ce que vous pensez que Twitter respecte la liberté de parole, de freedom of speech, qui est un thème complètement manipulé aux États-Unis pour utiliser par certains extrêmes politiques pour dire on veut pouvoir dire ce qu'on veut sur des plateformes privées et donc faire passer des messages qui ne sont pas acceptables pour ces plateformes-là et qu'ils soient obligés de les faire passer. Et Elon Musk, il est un petit peu, pas politiquement, encore qu'on se disait il s'est rapproché de Trump, mais au-delà de ça, il a quand même sur Twitter fait ce petit sondage qui peut paraître anecdotique et qui peut paraître peu important, mais il a fait ce petit sondage en disant « Est-ce que vous pensez que Twitter respecte la liberté de parole ?» C'est quand même un subtweet, un gaslight pour dire « Non, ils ne respectent pas, il faut que tout le monde puisse dire ce qu'ils veulent, même les choses les plus acceptables. » Je traduis et j'extrapole, mais à peine. Donc moi, je trouve ça pas très responsable comme manière de faire les choses.
Ah non, mais on n'a pas dit que c'était une lumière de la morale, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le phare qui doit nous guider, hein. C'est-à-dire que faut jamais oublier. Enfin, tu vois, c'est un mec dans son coin. Bon, il se trouve que c'est la plus grosse fortune au monde, que tout ça, c'est tout ce que tu veux. Mais donc, qu'évidemment, quand il parle, on est un peu forcé de l'entendre, mais on n'est pas forcé de l'écouter. Mais voilà. Donc, pour moi, honnêtement, c'est un petit côté enfantillage dans l'ensemble. Parce qu'en plus, tu vois, Twitter, par rapport au reste de son business, c'est tellement rien. Enfin, c'est grotesque. Il a pris 9% en dépensant quoi ? 2 milliards ? C'est moins d'1% de son... C'est presque dans l'épaisseur du trait. Donc là aussi, je pense que c'est un côté presque ludique pour lui. Il n'est pas en train d'investir dans Twitter en disant « Je crois que c'est avec ça que je vais assurer ma retraite. »
C'est ça qui est frustrant, c'est que ces trucs qui sont tellement... il n'a pas de pudeur, quoi. Il y a des trucs qui sont tellement Twitter a une influence sur la vie des gens normaux. Et lui, c'est juste un jouet, tu vois, c'est une virgule. Après, oh, bah, je vais prendre 10% de Twitter et puis je vais faire des shitposts. Je vais aller emmerder le board de cette société qui est une société sérieuse, qui a des trucs à faire, qui a des... Et tu vois, il va... Alors, et c'est, ça dépasse juste le comment dire, l'intrépide qui est allé disrupter les véhicules, enfin les fabricants de voitures, et puis le voyage dans l'espace et la communication Internet, etc. Ça dépasse ça. C'est juste je fais chier parce que je m'emmerde. Et il y a quelque chose de détestable là-dedans. Peut-être que c'est la conclusion un petit peu moins grandiloquente à laquelle j'arriverai. Il y a quelque chose de détestable dans sa désinvolture à faire des choses que lui peut faire et qui ont des conséquences sur le reste des gens qui n'ont pas ses capacités, quoi.
Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il traite ça comme un loisir, quoi.
Bah oui, mais...
Voilà. Bah oui.
Bon, écoute...
Bah oui, mais faut jamais oublier un truc. Je pense que c'était ça aussi pendant longtemps. On a eu Jack Dorsey qui était à la tête de Twitter, et le problème, c'est qu'en fait, l'essentiel de la fortune de Jack Dorsey, je crois plus de 80%, c'était pas Twitter, c'était... Square, ouais. Le système de paiement, etc. Et du coup, on disait, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui est le CEO alors que c'est quand même pas l'essentiel de son intérêt dans la vie, quoi. Et du coup, faut se souvenir, c'était pas des scandales, c'était des micro-scandales. Enfin, tu vois, c'était des scandales Morandini, quoi. C'est-à-dire quand il disait, tiens, je vais aller passer un an en Afrique. Non mais mec, t'as pas deux sociétés cotées à gérer, non. on avait l'impression pendant longtemps. Oui, mais c'est quand même des boîtes où souvent c'est le fondateur qui a la main sur le board, regarde Facebook, regarde tout ça. C'est où en fait le board est assez comment dire, un peu castré, quoi. Regarde, je recommande à tout le monde, parce que c'est sur Disney+, de regarder We Crashed, hein, parce que ça c'est quand même une histoire absolument faramineuse. Alors là, si tu veux, dans le genre n'importe quoi, dans le genre dilettante, dans le genre... Mais, enfin,
je sais pas, ça me paraît moins gênant parce que c'est des forces internes à des sociétés qui ont peut-être divagué. Là, c'est un type qui est complètement externe à l'organisation, qui vient faire chier parce qu'il peut. Juste parce que ça l'amuse, parce que c'est un shitposter et qu'il aime les mèmes, tu vois.
Ah oui, mais à ce moment-là, il y avait un moyen simple d'éviter ce genre de choses. Fallait juste pas être coté en bourse.
Oui, c'est pas faux. Oui.
Si t'es à vendre, n'importe qui peut t'acheter. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux pas dire ah oui, mais non, mais là, ça m'ennuie. Bah oui, mais personne t'a mis un couteau sous la gorge, mon chéri. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que tu vois des sociétés publiques, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des sociétés cotées qui un jour se retirent de la cote, rachètent leurs actions et disent non, mais c'est finalement c'est trop dangereux. Voilà. Dell l'a fait, d'autres l'ont fait, et c'est peut-être ce qui arrivera à Twitter un jour, parce que de fait. Finalement, peut-être que la vertu de Twitter, c'est plus, tu vois, la puissance de la plateforme, de son côté média, mais pas vraiment média, plus que de sa capacité à produire de l'argent, quoi.
Écoute, cette conclusion me convient. Ils avaient qu'à pas être cotés en bourse. Très bien.
Ben voilà.
Tu sais quoi ? Il y a une autre conclusion qui me convient, c'est celle à laquelle est arrivé Radbert sur iTunes dans les commentaires en France. Il dit « C'est la famille ? C'est un ami ? Non ?» C'est Patrick. On le connaît sans qu'il nous connaisse. Ça fait des années que le Rendez-vous Tech m'accompagne dans mes déplacements. Je suis toujours impressionné par la qualité de ce podcast et son évolution. Il a raison, hein, Radberg. Il faut l'écouter. Au même titre que la tech évolue, ce podcast a changé dans sa forme, mais a toujours conservé son ADN d'expliquer rapidement l'essentiel de la tech. Même si j'écoute d'autres podcasts, celui-ci a une place particulière dans mon cœur. Merci à Patrick et aux chroniqueurs et chroniqueuses qui, depuis des années, en font un podcast de référence. Merci beaucoup à toi et merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire sur iTunes. Vous avez été plusieurs à laisser des commentaires très très gentils. Je vous remercie sur Twitter. Il y a quelques jours, oui, on y revient toujours à Twitter. Mais c'est vrai que celui-là m'a particulièrement touché parce que cette question de « est-ce que c'est la famille, c'est un ami, c'est Patrick ?» Les podcasteurs ont vraiment, et Cédric le sait bien, ont vraiment une place particulière dans la vie des auditeurs, parce que à côté de la famille et des amis, on est peut-être ceux avec qui vous passez le plus de temps si vous écoutez régulièrement. Et, et donc, le message m'a un petit peu touché. Donc, merci beaucoup à vous tous qui laissez des commentaires. Et bien sûr, j'en profite pour remercier encore ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous pensez qu'on a un petit peu cette place particulière dans votre cœur, vous pouvez vous dire que on vous apporte une certaine valeur d'information, de distraction. Et peut-être que vous avez envie de nous soutenir, nous payer un petit café, un petit croissant de temps en temps. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez soutenir pour à hauteur de 1 euro par semaine, 2 euros par semaine, ce que vous voulez, un café, un croissant. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et vous dites « Oh, mais je pense à mon ami Patrick et j'aimerais bien lui payer une bière. » Voilà, c'est facile, c'est possible. Si vous voulez me payer une bière, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, je voulais parler de BeReal. Tu connais BeReal, l'application ?
BeReal. Ah, BeReal. Oui,
d'accord. BeReal, excuse-moi. BeReal. Mais tu sais quoi ? Avant ça, on va juste dire un mot sur SpaceX, puisque alors, c'est vraiment l'épisode Elon. parce que tu l'évoquais, Elon lui-même a porté sur ses petites épaules des civils qu'il a envoyés à l'ISS. Et c'est un moment, alors c'est pas la première fois qu'il y a des civils qui vont sur la Station Spatiale Internationale, mais c'est la première fois qu'il y a une firme privée qui envoie une mission entièrement composée de civils à l'ISS, et c'est en plus vu un petit peu comme une première étape, on va dire, pour la société Axiom, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui veulent construire leur propre station spatiale privée. Et ils sont vraiment en train de travailler dessus, et c'est donc la mission Axiom 1, qui est une première étape, AX1. Et il y a aujourd'hui, maintenant, 4 civils qui sont dans la Station Spatiale Internationale, qui sont en train de faire des expériences, ils ne sont pas juste là pour faire les touristes. Non. Mais on est vraiment en train de vivre le début de la conquête spatiale privée, je pense qu'on peut le dire.
Oui, oui, tout à fait. Alors, on n'est pas encore face à des stations spatiales privées, parce que là, ça coûte un tel fric, voilà.
Et puis, parce mais c'est les étapes, hein. Axiom, c'est leur but ultime, ils sont en train de construire leur premier module.
Ils veulent y aller, moi je trouve ça à la fois troublant et passionnant et tout ça, mais il y a une... faut dire que les prix se sont réduits terriblement. C'est-à-dire que c'est comme plein de choses dans la technologie, ils sont arrivés à des économies d'échelle, et puis alors là, des solutions technologiques innovantes qui font que t'as pas besoin de jeter ton lanceur à la poubelle à chaque fois que t'en produis un nouveau. Mais ça va donner lieu à plein de nouvelles choses. C'est-à-dire que l'arrivée des microsatellites, il y a mille choses qui font qu'il va y avoir de plus en plus de lancements, que le prix au kilo de ce que tu envoies dans l'espace, parce que finalement, c'est quand même ça, l'unité de mesure est en train de baisser de manière constante. C'est intéressant.
C'est hyper intéressant d'ailleurs. La raison pour laquelle SpaceX réussit à faire beaucoup moins cher que la NASA n'avait réussi à le faire, c'est parce qu'ils font tout en eux-mêmes, en fait. Enfin, tout. Il y a 80% de ce qu'ils utilisent pour faire des fusées qu'ils développent eux-mêmes. Et avant ça, la tradition dans la fabrication de fusées était très différente. c'était des choses, des pièces qu'on cherchait, qu'on allait assembler, enfin qu'on allait acheter ailleurs. Et il y avait quelque chose comme, oui, 80% des pièces qui étaient achetées et assemblées. Du coup, ça revenait beaucoup plus cher que ce que fait SpaceX maintenant. Bref, l'exploration spatiale privée continue à se rapprocher. Mais ça, c'était juste un détail de ce que je voulais évoquer dans cette deuxième partie. L'autre chose que je voulais évoquer, donc, c'était Biril, cette application qui est très populaire auprès des jeunes.
Tu vois qu'on est vieux.
J'hésitais à le dire comme ça. Alors, ce n'est pas tant la popularité de l'app qui m'interpelle, parce qu'il y a souvent des apps qui deviennent super populaires et puis qui redisparaissent. Mais la manière dont elles fonctionnent, je me demande si on n'en avait pas parlé il y a quelques temps d'ailleurs.
Clubhouse, souviens-toi.
Pardon ?
Clubhouse, souviens-toi.
Oui. tu, merci d'illustrer mon propos. Mais en l'occurrence, Biril, c'est une application de alors, c'est un réseau social basé sur les photos, mais d'ailleurs, c'est une société française qui fait Biril. Et pour coller à leur nom, en fait, ils encouragent l'authenticité dans les partages sur les réseaux. Et la manière dont ça fonctionne, c'est vraiment intelligent. Il vous envoie une notification, un petit peu au hasard, et pendant les 2 minutes qui suivent, vous devez prendre une photo et la poster sur le réseau. Et ça prend, en fait, une photo de vous, donc la caméra selfie, et la photo de ce qu'il y a devant vous. Et vous avez seulement 2 minutes après la réception de la notification pour le faire, sinon c'est invalidé. Et donc, alors vous pouvez vous préparer un petit peu, vous recoiffer, machin, mais vous ne pouvez pas mettre en scène complètement votre photo sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Instagram, quoi. Et donc, ça amène de l'authenticité, du naturel. C'est certainement une réaction à cette tendance, justement, à manucurer énormément les photos qu'on poste sur les réseaux. Et l'autre aspect, c'est que si vous ne postez pas vous-même, eh ben vous n'avez pas accès aux photos de vos amis. Donc, il faut poster pour avoir accès au contenu. On ne peut pas juste lurker comme on peut le faire sur d'autres applications. Je trouvais ça hyper intéressant comme principe. Elle est très populaire, l'application. Elle monte en popularité de manière, alors pas exponentielle, mais linéaire, depuis, on va dire, 5-6 mois. Et ils sont aujourd'hui, alors je ne sais pas si on a les chiffres, mais c'est des millions de téléchargements par mois.
Ah oui, tout à fait. Le papier d'Axios, c'est très bon là-dessus. Clairement, ils font des millions. Et surtout, c'est intéressant, c'est une appli française qui, tout à coup, est numéro 4 sur l'App Store aux États-Unis, ce qui est déjà une perf absolument extraordinaire. Et c'est une chouette approche un peu différente. Un peu, c'est pas si différent que ça, mais voilà, le côté temps réel est pas inintéressant. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent, et c'est amusant, hein, parce qu'il y a des choses... Tu sais, le timing, c'est toujours important. C'est-à-dire que ça arrive à un moment où peut-être que les gens ont besoin de quelque chose d'un peu nouveau, parce que leur flux Instagram est pollué par plus de pubs que de vrai contenu. Et je pense qu'ils ont bien choisi leur moment.
Quand tu dis leur flux Instagram, tu parlais du flux TikTok, évidemment.
C'est de ça ou pareil, la même.
Parlons un petit peu de Facebook, tiens. L'ironie suprême, Meta est en train de tester un système qui permet aux créateurs de vendre du contenu sur Horizon. Vous savez, Horizon, c'est leur système, leur monde virtuel, qui serait les prémices de leur partie du métavers. Et ce qui est marrant, c'est que alors, les créateurs pourraient créer des modèles en 3D, des vêtements, des espaces, etc. Mais Meta veut prendre 25% des revenus, comme le font beaucoup de plateformes, 25% des revenus après la partie des revenus, la commission de la plateforme. C'est-à-dire que Apple prend 30%, Google sur Android prend 30%, et même Oculus, je crois qu'ils prennent 30%. En tout cas, ils ont leur commission aussi qui doit être entre 20 et 30. Et donc, la part de Meta, si on vend un objet dans le monde de Horizon par la plateforme Oculus, eh bien Oculus, qui appartient à Meta, prendrait déjà ses 20 ou 30%, et Meta prend ensuite sur ce qui reste ses 25%. Ce qui veut dire qu'en gros, sur toutes les plateformes, on récupérerait 30%, 50% à peu près, hein, de la somme payée par l'utilisateur. A priori, on pourrait se dire pourquoi pas, chacun a son travail qui a été mis dans cette chaîne d'écosystème. Mais ce qui est vraiment ironique, c'est que, on le sait, Meta se bat avec Apple depuis des mois pour essayer, enfin pour combattre l'idée de la mainmise sur le store et donc la commission des 30%. Enfin, il n'y a vraiment pas de honte dans la tête de Zuckerberg, j'ai l'impression.
Non, non, il est né avant la honte. À tous égards. Après. À tous égards. Moi, j'ai vu l'histoire là, sur l'espèce de campagne contre TikTok et tout ça. Enfin, je veux dire...
C'est vrai, oui, je ne l'ai même pas dans les notes, mais oui, tu peux expliquer. Ah ouais. C'est cette... Qui continue d'ailleurs, la campagne.
Ah bon? Mais je pensais que c'était fini. En gros, ils ont embauché un cabinet d'influence et de lobbying, un peu, comment dire, tu vois, un peu opération spéciale, qui, en gros... a essayé sur TikTok de lancer un faux challenge qui était c'était quoi, c'était gifle ton prof, un truc de ce genre.
C'est pas tout à fait ça, c'est qu'il il trouve des sujets complètement éberluants sur TikTok.
Voilà.
Un truc du genre, enfin je sais pas, un type sur TikTok poste un truc sur un prof qui s'est fait gifler, ou alors cette histoire du Tide Pod Challenge, vous savez, on va boire un pod de détergent,
avaler une capsule de détergent,
voilà, ce genre de truc débile.
Cives, ouais.
Alors il trouve un TikTok où il y a quelqu'un qui fait ça, ou quelqu'un qui en parle, ou machin, et puis ils vont planter je fais un anglicisme, oui, ils vont proposer l'histoire à des petites chaînes locales qui sont toujours aux abois pour avoir du contenu et puis qui souvent parlent à un public plus âgé, donc c'est des trucs qui vont les effrayer et donc qui vont faire de l'audience.
Ou par exemple envoyer des fausses lettres de parents d'élèves au journal local, enfin bon, arriver à faire buzzer un peu le truc, juste pour en gros faire dire que TikTok est une plateforme irresponsable et qu'il faut arriver à les brider. Tout ça, évidemment, sans jamais dire. C'est exactement, c'est une campagne de dénigrement organisée, et puis avec un peu de... Enfin, avec des choses qui sont totalement pipeaux. Ils sont pas en train juste d'essayer d'amplifier, si tu veux, un ressentiment qui gronde dans la population. Non, non, ils sont en train d'essayer de monter en épingle des choses qui sortent un peu de nulle part, pour en faire des choses qui vont retomber sur les genoux des politiques en disant, bah regardez, faut réglementer tout ça, c'est pas possible, interdire aux plus jeunes, bon, bref. Et tout ça, évidemment, sans jamais dire à aucun moment que tout ça est payé en sous-main par Meta. Et surtout, c'est pas tellement ça, c'est-à-dire que ce genre de choses, ça existe et ça a existé, mais quand ça est arrivé, je sais plus qui a sorti, je crois que c'est New York Times qui a sorti l'histoire, et quand ils sont retournés vers Meta en disant, alors, pourquoi, quoi? Réponse chez Meta, tout le monde fait ça. Ah bah d'accord, ah donc ok, bah donc si c'est ok, bah c'est vrai, pourquoi s'en émouvoir? Donc non, c'est pour ça que je dis, né avant la honte, quoi.
Ouais. On est d'accord, c'est un peu... Et puis c'est des trucs, tu peux toujours le tourner de manière à dire « Ah mais si, regardez, il existe bien sûr, ce TikTok, facile. Machin !» Et à la limite, peut-être que c'est difficile à réguler, à légiférer, mais la chose qu'on pourrait dire, c'est qui paye, d'où ça vient, quoi, d'où vient l'argent, comme souvent. C'est des choses qui sont motivées par autre... des choses qui sont motivées par d'autres choses que juste le fait de protéger le public, clairement. Donc, et puis justement, tu as vu que les dépenses, je sais pas si tu l'as vu, les dépenses pour la protection de Mark Zuckerberg se montent à 27 millions de dollars, presque, contrairement à Sundar Pichai, c'est 4,3 millions, Jeff Bezos, c'est 1,6 million.
Ça, j'y crois pas un instant, mais parce que pour tout dire, moi j'ai vu les gardes du corps de Jeff Bezos de près, et pourtant dans un événement qui était organisé dans ses propres locaux, t'imagines le truc, et il arrive et ils étaient 3 ou 4 très nerveux, alors que l'assistance était des gens même pas triés sur le volet, mais uniquement invités. C'était que de la presse.
Je crois que Bezos, quand il est dans ses locaux, il est peut-être pas tranquille non plus, vu ce qui se passe dans ses entreprises.
Je pense que c'est pas que ça, mais là vraiment c'était, tu vois, on va dire qu'il était pas dans un événement public, et pourtant il avait, moi je voyais, j'ai pris des photos même, ces gardes du corps qui avaient tous des têtes à sortir du chinbet et qui regardaient de manière très nerveuse les mains des gens, etc., avec, tu vois, l'oreillette, le truc, enfin c'était genre
on dit 1,6 million, c'est pas rien non plus pour Bezos, tu
non
vois,
si c'est
pas...
rien, on sait qu'il a fait blinder les vitres à l'étage de son bureau, enfin faut se souvenir, c'est tout tout ça, c'est à la suite de l'histoire du Washington Post et du, comment il s'appelle, ce journaliste qui s'est fait tuer, dépecé, découpé en morceaux à l'ambassade saoudienne en Turquie. Enfin bref, donc il sait qu'il a des ennemis. Et ça, c'est pas nouveau. Il y avait ça, et puis le fait qu'il était aussi, tu vois, déclaré comme une espèce d'ennemi officiel de Trump, qui n'arrêtait pas de baver sur son compte, et que donc il n'était pas à l'abri d'avoir un mec avec une casquette MAGA qui débarquait avec un AR-15 et tout ça. Et donc non, c'est bien plus que ça dans le cas de Bezos, mais c'est vrai que ça fait beaucoup dans le cas de Zuckerberg. Bon, après, la fortune attire
oui,
plein
non,
de trucs
sûr,
assez dangereux. Et puis, il a plein de...
Comme ça, on passe à la limite. Et puis, il a plein de maisons. Si l'État voulait penser de l'argent pour protéger Zuckerberg, bon...
C'est intéressant parce que pendant ce temps-là, moi je disais un truc sur l'emploi du temps de Tim Cook. Alors c'est une espèce d'emploi du temps de moine, mais bénédicte, enfin c'est pire que tout. C'est, tu vois, debout, il se lève à 3h45 du matin. pour commencer par aller au travers de genre 600 mails auxquels il répond. Et après, il va à la gym et machin, etc. Il arrive au bureau à 7h. Donc, tu vois, les gens qui arrivent à 9h et qui rentrent en réunion avec lui, faut qu'ils soient bien accrochés parce que lui, il est déjà au courant de tout. Donc, c'est pas...
Ah bon, et attends, je vais aller lire le...
Non, c'est trop tard. C'est comme ça que tu construis ta légende, tu vois ce que je veux dire. Moi, je connais des gens qui ont fait ça à plus petite échelle, façon de parler, des patrons de presse qui, de fait, toi, t'arrivais le matin un peu la gueule enfarinée à 9h en compte de rédac, et les mecs, ils avaient tout lu, ils avaient lu toute la presse, ils avaient écouté tous les éditos, tous les machins, tous les trucs, hein, et toi, t'arrives en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Et tu comprenais que ça allait pas pouvoir marcher comme ça, et qu'il allait falloir que tu t'informes un peu, bref. Et le revers de la médaille, c'est que Jeff Bezos, à 20h45, il est au lit, quoi. Donc,
écoute, ouais. Moi, c'est 21h30, donc je le comprends.
Ce que je veux dire, c'est qu'il continue à aller dans le même club de gym ouvert à tous. Moi, je sais où il
tu
est.
Tu parles parce de Tim Cook ou de Bezos? T'as dit Bezos.
De Tim Cook. Ah non, Bezos, oui, non. Bezos, il se mélange avec personne. Bezos, on te dit même pas quand il va venir. Tu vois, c'est un petit côté,
c'est
fantomas.
Bezos surprise, tout à coup.
il serait bien que vous soyez là vers 16h. Mais pourquoi faire? Mais parce que ce serait bien. Et là, tout à coup, il apparaît. Et alors que Tim Cook, non, il va toujours dans le même club de gym où il croise un garçon que je connais. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a une question de style aussi. Il y a une question de style personnel. Mais voilà.
Les lunettes de soleil sont importantes.
Et on peut en vouloir à Mark Zuckerberg, mais ça ne va pas à ce point-là, soyons clairs.
Non, mais c'était juste un petit mot en passant qui s'est allongé en un sujet d'importance capitale. Mais du coup, si on parle d'argent et de Zuckerberg, on peut parler des Zuckbucks aussi. Depuis qu'ils ont dû abandonner leur crypto-monnaie universelle, le Diem, anciennement Libra, il semblerait qu'ils soient en train de travailler à un truc que les gens appellent amoureusement, ou avec amour plutôt, Zuckbuck, donc une monnaie interne à Facebook qui serait en fait une sorte de... C'est un peu flou, hein, mais on imagine une sorte de système de crédit qu'on achèterait pour ensuite les utiliser pour payer des services ou des biens virtuels sur Facebook. Quel intérêt pour Facebook d'avoir son... Alors là, on ne parle plus vraiment de monnaie, mais son système de crédit, un petit peu comme les crédits qu'on avait sur le Xbox Store à un moment, où il y a plein de systèmes
qui font
ça. Oui, ou
les V-Bucks de Fortnite. Enfin, je pense que c'est exactement ça. Mais tout à coup, tu auras une monnaie qui fonctionnera sur tu vois, plusieurs types de jeux, plusieurs types de machins, plusieurs types de contenus. Oui, c'est pas, ça va. Ça, c'est encore une fois, on n'est pas dans l'innovation, mais c'est normal. On est chez Meta.
Mais donc, tu penses qu'effectivement, ils sont en train de travailler là-dessus. Mais ce que j'ai un petit peu de mal à voir, bon, je joue un petit peu le jeu pour que tu me répondes, mais quel intérêt pour Facebook d'avoir un truc comme ça plutôt que d'utiliser des dollars?
Alors, je ne sais pas, il y a peut-être aussi le fait qu'il faut passer par les fourches codines des plateformes sur lesquelles les applis Meta sont disponibles. Mmh. Dès que tu commences à parler en dollars, justement, tu vois, tu as Apple qui va dire « Ah, mais c'est bien des dollars, moi, ça m'intéresse.
Ouais. »
si tu restes sur des Zuckbucks qui n'ont pas de valeur officielle, enfin, tu vois, où à aucun moment tu peux en refaire des dollars, voilà, tout à coup, tu n'es plus dans une vraie monnaie, donc tu n'as pas tous les ennuis qui leur sont tombés dessus, dès qu'ils ont prononcer le mot monnaie la dernière fois.
Et puis
c'est dommage, parce que je pense que c'était la première fois qu'ils innovaient sur quelque chose depuis bien longtemps.
Oui, ça, je regrette aussi un petit peu qu'on n'ait pas plus exploré le Libra / Diem. Pour une fois qu'ils disaient un truc qui n'était pas con. Mais, Mais du coup, ça veut dire, genre, on achète, je sais pas moi, 1000 Zuckbucks, et puis du coup, on dépense 200 ici, 200 là, on n'a pas besoin de passer à l'étape achat à chaque fois. Pour et de devoir sortir la carte bleue à chaque fois, ça facilite les paiements peut-être. Enfin,
ouais,
les dépenses.
Tu aurais ton porte-monnaie interne qui pourrait peut-être d'ailleurs s'incrémenter selon je sais pas quoi, la popularité de tes postes. Enfin, tu vois, bon, ouais. Il y aurait peut-être aussi des moyens de les créditer autrement qu'en en achetant, où tu peux le gagner dans des jeux, en récupérer sur machin, t'en donner entre amis. Enfin, tu vois,
ouais,
oui,
ça amène beaucoup de flexibilité au truc.
Bien sûr.
Mais du coup, moi, je suis une société qui édite, j'en sais rien, moi, des jeux Facebook. Ou qui vend des avatars, enfin, j'en dis n'importe quoi. Je suis payé en Zuckbuck, j'en fais quoi après ? Parce que si je peux les convertir en dollars, ça change le statut de ces Zuckbuck. C'est plus des crédits, c'est une monnaie. Et là, les régulations sont très différentes. Donc,
alors, il se passera peut-être la même chose qui se passe ailleurs, c'est-à-dire que ces choses auront des cours non officiels. Et
ah oui,
avec,
mais si
des
c'est
endroits
monnaie,
où tu pourras les échanger.
Ah, non officiel, tu veux dire, oui, discrètement, oui. Tu vas comme au pachinko au Japon, quand tu sors du truc,
voilà.
Tu vas là, au tu bureau d'à côté.
Dans la petite échoppe qui est dans le bureau d'à côté, et là, tout à coup, tes billes ont une valeur et pas zéro. Donc, oui, oui. Mais ça existe sur tout. C'est-à-dire que moi, je reçois des mails qui me disent « Vous voulez pas nous vendre vos miles Air France ?» Ah, ben, je ne savais pas que ça avait une valeur. Enfin, si, ça a une valeur, bien sûr, mais je ne savais pas qu'on pouvait vraiment mettre une valeur dessus. J'ai vu maintenant qu'on peut vraiment mettre une valeur dessus. Je n'ai pas vendu, parce que c'est non, sur le papier, c'est pas légal.
Mais là, tu vois, c'est pareil, ça serait pas vraiment légal, parce que si légalement, on a le droit d'échanger des Zuckbucks contre des dollars, il y a toute une série d'agences de réglementation qui s'y intéressent.
Ah bah bien sûr.
Et donc, je suis un petit peu sceptique. Mais en même temps, t'as pas tort en disant que, ok, même si ça reste dans le truc Facebook, eh ben, on peut en faire plein de choses, on peut les échanger, en faire gagner, et puis les utiliser pour d'autres choses.
Bien sûr.
C'est pas Carpe, c'est pas Diem, c'est pas Libra, mais ça a une partie des
avantages. Non, et puis c'est pas une crypto-monnaie, c'est pas un truc dans lequel tu vas demander à faire virer ton salaire, tu vois. Ouais. C'est, mais c'est vrai, toutes les fausses monnaies, entre grosses guillemets, ont un vrai cours à un moment. Quoi.
J'avais vu une vidéo extrêmement intéressante sur ces miles, justement, qui sont en fait l'une des sources de revenus les plus importantes des compagnies aériennes aujourd'hui.
Absolument, ça permet de les vendre aux plateformes hôtelières, à tout ça, enfin, de redonner une valeur.
Il y a plus d'argent sur les systèmes de miles et de fidélité que sur les vols, et pas juste un peu plus. Genre sur les vols, on fait plus beaucoup d'argent, et c'est sur ces systèmes que.
Oui, tout à fait. Mais je crois qu'on a vu la même vidéo.
Sans doute, oui. Ça doit être Wendover Productions ou un truc comme ça.
Un truc comme ça.
Quoi d'autre ? OpenAI a développé son nouvel algorithme DALL-E qui génère des images à partir de descriptions texte. C'est hyper impressionnant. Ça existait déjà, mais c'est beaucoup plus précis. D'une part, les images aujourd'hui font 1080 par 1080 pixels au lieu de 256 par 256. Et en plus de ça, les descriptions sont vraiment, vraiment importantes. On peut décrire n'importe quoi et une IA ensuite va générer une image qui correspond à cette description. Et là où ça va encore plus loin qu'avant, il y a la possibilité de modifier une image, là encore, par intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous prenez une image existante, l'exemple qu'il donne dans l'article de The Verge, c'est un exemple qui était donné par OpenAI eux-mêmes. Il y a une photo d'un intérieur et on dit, est-ce que vous pourriez ajouter une bouée de flamant rose dans le coin, en bas, à gauche ? Et effectivement, la nouvelle image, bah, c'est la même, mais avec cette petite bouée flamant rose en plus. Et alors, on peut détecter encore un petit peu les imperfections graphiques, machin, mais c'est hyper, hyper impressionnant. Et c'est encore une fois le début pour vous donner une idée de à quel point ça peut partir dans n'importe quoi. L'une des images qui donne en exemple, c'est un bol de soupe qui ressemble à un monstre, mais qui est tricoté en laine. Et effectivement, il y a un bol avec un monstre tricoté en laine dans le bol. enfin visage.
Et il est magnifique d'ailleurs, il est absolument remarquable. On dirait une vieille chaussette dans laquelle on a mis deux yeux. Enfin, c'est non, mais c'est même l'image qui ouvre le papier, c'est quand même une image de. En gros, quelqu'un, tu tapes une description, il fait l'image, et la description, c'est deux ours en peluche, qui mélangent des produits chimiques étincelants, sparkling, déguisés en scientifiques fous, en savants fous, tendance steampunk. Et bah, l'image, c'est exactement ça. Et là, c'est t'as deux oursons avec des espèces de grosses lunettes sur les yeux, de couleurs différentes, avec des. Bah, c'est incroyable, quoi. Ouais. On en perd nos mots. J'ai plus les mots, c'est-à-dire que c'est passionnant et tout à coup, moi, j'y vois déjà plein d'applications. Il se trouve que dans mon vrai travail réel, j'utilise assez souvent, tu vois, des banques d'images, des trucs comme ça. Mmh. Et là, tout à coup, tu peux générer tes images en disant, tu vois, plutôt que d'aller chercher le truc avec la description en disant, tu vois.
Pour les illustrations des émissions. Ah mon pour Dieu, tout, Fanny, tu te rends compte
tout.
Quand on cherche les illustrations pour les émissions.
Et voilà. Tu vois, plutôt que de dire, bon, alors il me faut la photo d'une jeune femme plutôt métisse, comme ça on ne voit pas trop d'où elle vient, qui regarde un avion passer au loin devant une grande colline verte, bah, plutôt que de chercher la photo, bah, tu la crées. Voilà, femme en regardant un avion passer. S'ils arrivent à faire deux oursons steampunk en train de manipuler des produits chimiques, ils peuvent faire des choses plus simples que ça, tu vois ce que je veux dire. Et à chaque fois, ils vont en plus te générer des choses qui sont uniques.
Mmh. Complètement, oui.
Et qui n'appartiendront qu'à toi.
C'est sûr.
Et après, tu pourras en faire un NFT.
ça simplifie le travail quand même. Voilà. C'est encore à l'état de, on va dire, de présentation de projet. Ça a l'air assez bien fini. On note qu'il n'y a pas de personne dans ces images d'exemples qu'ils donnent. Donc peut-être qu'ils ne sont pas encore complètement à 100% confiants en leur capacité à générer des personnes. Mais bon, c'est hyper impressionnant. Le lien vers l'article de The Verge sera dans la newsletter. Donc comme d'habitude, notepatrick.com pour vous abonner à la newsletter, mais c'est hyper impressionnant. Si vous voulez le chercher vous-même, c'est DALL-E, D-A-L-L-I, qui est l'un des projets de recherche de OpenAI, qui est notamment ceux qui ont généré GPT-3, qui est un générateur de texte en intelligence artificielle, donc qui crée vraiment du texte.
Je l'avais pas compris, mais Dali, c'est la compression de Wall-E, le robot, et de Salvador Dali.
Exactement.
Et de fait, c'est la soupe, le bol de soupe qui ressemble à un monstre tricoté en laine, ça mériterait d'être du Salvador Dali.
Tout à fait. On peut peut-être se servir de ça comme illustration pour cet épisode, le bol de soupe.
Et maintenant, j'ai envie d'y avoir accès pour moi aussi taper des trucs, quoi. Tu vois,
malheureusement, c'est pas encore possible. Mais,
quel dommage.
Ouais. Quelques petits sujets que je voulais
évoquer. Patrick Béja en train d'embrasser Elon Musk sur la bouche dans un jacuzzi.
Oh là là, mais c'est vraiment quand on parle du meilleur et du pire. Là, on est dans le.
Et voilà. On est d'accord. Ça y est, on est tombé dans le pire.
Je vous disais que ASML, vous savez, c'est des gens qui fabriquent des machines pour fabriquer des puces. Et ben, ils ont énormément de mal à fabriquer ces machines. Et donc, les usines qui sont en construction risquent, une fois terminées, de ne pas pouvoir faire des puces. Et bien, on a eu un article de Nikkei Asia qui fait état, alors c'est des rumeurs, des discussions qu'ils ont eues en interne, de problèmes important de plein de fabricants de ces composants essentiels, de ces machines essentielles à la fabrication de puces. Et ils disent tous, on a des délais qui sont allongés de quelques mois à 4, 5, 10, 12, 18 mois. Et ça continue à s'allonger parce que leurs fournisseurs eux-mêmes ne peuvent pas suivre. C'est-à-dire que les fournisseurs, c'est des gens qui font des produits extrêmement spécialisés, qui sont uniques dans le monde. On ne parle pas que de Zeiss qui fait les lentilles, mais il y a plein d'autres choses qui sont difficiles à fournir pour la demande aujourd'hui. Et donc, même les usines qui sont fabriquées aujourd'hui risquent de ne pas avoir de possibilité de production avant un moment aussi.
Wow.
Le FBI est entré dans vos machines. Entrez dans vos ordinateurs et votre informatique, vos appareils de maison connectée, tout ça. C'était autorisé par la justice. En fait, c'était pour supprimer un botnet. Ils ont hacké un botnet pour le supprimer. Et c'est pas tout à fait la première fois que ça arrive, mais c'est intéressant de se dire que on peut aujourd'hui autoriser des autorités, hein, qui savent ce qu'ils font a priori, à infiltrer les botnets pour les désactiver, parce que il n'y a pas d'autre solution en fait. Comme les gens mettent pas à jour leurs machines et parfois elles peuvent pas être mises à jour, bah, le seul moyen c'est de hacker le truc et d'appliquer un patch sans que les utilisateurs, les propriétaires soient au courant. Oui, ça marche.
Ça me va.
Windows 11 sera bientôt bootable sur le cloud, c'est-à-dire qu'il y a un service qui s'appelle Windows 365, qui est un service de cloud pour Windows. On boot Windows, mais sur une machine distante. On pourra bientôt booter directement la machine sous Windows 11 sur le cloud, sans passer par la machine locale. On pourra aussi avoir une machine locale sur un desktop et l'autre sur l'autre. Donc, en passant de l'un à l'autre, on passera de notre machine locale à la machine cloud. Je trouve ça assez intéressant parce que beaucoup de gens, beaucoup de sociétés commencent à s'intéresser à ces solutions de cloud parce que c'est beaucoup plus sécurisé, en fait. C'est maintenu par le service informatique de la boîte et vous, ouais, vous n'avez pas de fichiers en local ou très peu, il y a des échanges à faire, machin. Et tout se passe sur les serveurs gérés par le service informatique et ça offre des solution intéressante, je trouve.
Ça se faisait déjà avec des terminaux un peu simples où, de fait, tu bootais une image qui était dans le, oui, dans le cloud, mais c'est vrai qu'il devait y avoir des éléments un peu locaux, peut-être sur ton réseau d'entreprise et ailleurs. Là, c'est totalement dans le cloud, c'est chouette parce que, surtout dans la perspective de, tu vois, je passe 3 jours au bureau, 2 jours à la maison, etc. D'un coup, ton environnement ne change pas et t'as raison, il n'y a pas de données qui traînouillent sur le disque dur de ton PC à la maison. Enfin, tu vois, ce genre c'est de choses. Ça a le mérite de la simplicité. Tu te lèves de ton bureau, tu rentres chez toi, tu t'assieds, tu démarres le truc et tu reprends exactement ton travail là où t'étais. C'est quand même assez confortable.
C'est vrai. C'est marrant d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu la manière dont Lapsus avait hacké un certain nombre de sociétés qu'ils ont hackées. Vous savez, Lapsus, le groupe qui a fait des gros hacks, qui était à l'origine géré par un enfant de 16 ans et des groupes. Enfin bref. Mais l'un des trucs qu'ils faisaient, c'est du 2FA bombing. Est-ce que tu sais ce que c'est que le 2FA bombing?
Ah non. Non.
Le 2FA bombing, 2FA, donc two-factor authentication, authentification double facteur. Il y a plein de gens, évidemment, qui protègent leur compte et leur compte dans la boîte, hein, notamment par de l'authentification double facteur. Et ben, ce qu'ils font, c'est que s'ils ont, d'une certaine manière, réussi à récupérer le mot de passe du compte de la personne, ils ont besoin d'avoir accès à l'authentification double facteur, et ben ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des demandes à répétition. Mais genre, soit ils en font 2 par jour, c'est du 2FA bombing light, soit ils vous en envoient pendant 1 heure, 1 par minute. Et évidemment, pas tout le monde, mais il y a des gens qui finissent par dire oh, « Ok, c'est bon, j'accepte, c'est bon, lâche-moi, quoi. » Et qui appuient sur « Accepter ». Vous savez, ces trucs qui vous envoient une notification « Hey, vous voulez vous loguer? Est-ce que vous voulez accepter ?» Et les gens se disent « Mais c'est un bug ?» Je comprends pas ce qui se passe, donc j'appuie et arrête de m'emmerder. Et c'est une sorte de social engineering à moitié, et ça fonctionne, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer dans toutes ces sociétés. Donc si vous recevez des masses de demandes de connexion sur votre truc d'authentification double facteur, contactez votre service informatique, a priori, il y a un problème. Ne cliquez pas juste clairement, OK désactiver les notifications. La WWDC aura lieu le 6 juin, enfin du 6 au 12, donc Apple va nous annoncer ses nouveautés. Il semblerait, selon Mark Gurman, qui sait ces choses-là généralement, que la bêta d'iOS 16 soit pleine de références à Reality OS, le... système d'exploitation des lunettes de réalité augmentée, réalité virtuelle d'Apple. Alors, ils ne pensent pas qu'elles seraient présentées là, cette année, mais ça pourrait indiquer qu'elles pourraient être présentées d'ici la prochaine version d'iOS, donc iOS 17 en 2023. Et peut-être même une présentation de l'OS lui-même à la WWDC cette année. On ne sait pas.
Mais ouais, parce qu'il va bien falloir créer du contenu pour cette plateforme-là.
Exactement. Avant de lancer le matériel, peut-être qu'il faut... développer du contenu
et voilà.
Logiciel. Peut-être.
D'ordinaire, c'est à ça que servent les conférences développeurs.
C'est possible, c'est possible. On verra. Google serait en train de planifier le fait de bloquer les applications qui utilisent des API qui ont plus de 2 ans. à partir du 1er novembre. Oula. C'est pas qu'ils planifient, c'est qu'ils vont le faire. Et c'est pas bête pour obliger les développeurs à faire évoluer leurs applications. Mmh. Alors le problème, c'est les vieilles applications qui n'ont pas forcément, enfin qui sont plus mises à jour ou qui c'est un problème. Mais bon, on va vivre avec. Hein.
Ou d'API, de trucs qui existent plus, mais enfin c'est il y a tu sais il y a du vintage en technologie, donc c'est on est toujours un peu frappé. Et c'est amusant, c'est que c'est au moment où les trucs s'arrêtent que tout à coup on dit ah non mais c'était très important. En fait.
C'est ça, l'application qui marche plus parce que Google a dit mais enfin ça fait 2 ans qu'on vous dit de mettre à jour, vous le faites pas. Et là tout à coup tu te rends compte mais merde moi je fais comment sans ce... Bon, je précise. C'est pas que vous pouvez plus l'utiliser sur votre téléphone, c'est que plus personne ne peut la retélécharger, enfin la télécharger dans le store a priori. Donc ça laisse une petite fenêtre d'utilisation. Allez, dernière news qui va t'emplir de joie, je suis sûr. Coinbase serait en train de financer, Coinbase plateforme d'échange de crypto-monnaies, de financer une trilogie au cinéma qui relaterait l'aventure des Bored Ape Yacht Club, l'une des deux plus grosses collections de NFT à ce jour.
Ouais. Bon, s'ils veulent. J'ai été totalement refroidi. Moi, j'ai écouté un podcast remarquable qui est publié par New York Times, qui est le podcast de Ezra Klein. Mmh. Et il y a 2 ou 3 épisodes, il interviewe, je me souviens plus du nom de ce garçon, mais qui en gros te démonte le Web 3 en 1h15. Et au bout de 1h15, tu te dis, bah oui, c'est complètement con. Enfin, tu vois, comme une solution en attente d'un problème, et puis comme un problème d'ailleurs en lui-même, en disant en gros, si tout devient découpable en petits bouts de trucs dont tout le monde est propriétaire, tu génères d'abord, tu laisses plein de gens sur le bord de la route parce que c'est pas utilisable. Enfin bon. Et alors, sur le NFT, il a eu un truc, il disait, bah oui, bien sûr, les NFT ont une valeur. Enfin, quand vous vivez dans la blockchain Ethereum, parce que dans le reste du monde, ça n'a pas de valeur. Et là, tu t'es forcé de réfléchir en disant, ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Oui, c'est sûr que. j'étais déjà pas d'une immense chaleur. C'est-à-dire que c'était quand même très. Ça faisait beaucoup de bulles. Ça fait beaucoup de bulles, les NFT. Mmh. D'ailleurs, ça fait un peu moins de bulles en ce moment, je m'aperçois. Je disais, bon, voilà, l'hystérie va retomber et les vrais usages vont commencer. On va voir.
Ouais, on va voir, c'est clair. Deux choses. D'une part, Ethereum est en train de faire un dernier test. À grande échelle pour leur fork, pour passer au proof of stake plutôt que proof of work. Donc peut-être que ça va finir par arriver. Évidemment, Ethereum, c'est plus que juste des NFT. Hein.
Oui.
On le sait. Et puis l'autre chose, oui, il y avait la conférence Bitcoin à Miami il y a quelques semaines et on y a beaucoup plus parlé d'Ethereum que de Bitcoin, parce que ce qui était une situation un petit peu étrange. Mais oui, Bitcoin ne sert que à la crypto-monnaie Bitcoin, ce qui est pas le truc le plus propice aux innovations intéressantes dans le domaine de la crypto, enfin des blockchains.
Voilà.
Mais pour en revenir à cette histoire de Coinbase et du film, alors, est-ce que vous le sentez arriver ? Il est en route, il arrive, il est là. C'est l'avocat du diable. Il est là. J'ai hyper envie de savoir, enfin de connaître cette aventure incroyable du Bored Ape Yacht Club. Parce que c'est un truc qui est un petit peu le symbole de la blockchain, ou plutôt le symbole des NFT. On pourrait parler des CryptoPunks, mais c'est une histoire qui est complètement folle, quoi. Et que j'aimerais, tu vois, si on me relate la manière dont tout ça s'est passé de manière un petit peu entertaining, tu vois, on est à Hollywood, ça serait super cool. Mon seul avocat du diable de l'avocat du diable, c'est, on parlait d'argent qui finance tout à l'heure, c'est Coinbase qui finance. Coinbase, ils ont un peu intérêt à présenter ça sous un jour plutôt positif.
C'est-à-dire que, voilà.
Donc, c'est ça qui m'inquiétera, quoi. On arrive au bout de cet épisode. Merci Cédric d'avoir passé cette petite heure et presque et demie avec moi.
Et presque et demie, tu vois, le temps passe vite quand on s'amuse.
Un plaisir immense. Si les auditeurs veulent plus de plaisir, s'ils veulent plus de plaisir cédrifique, où est-ce qu'ils doivent aller ?
Me love you long time. Qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, je leur recommande d'écouter s'ils l'ont raté l'épisode qu'on a fait ensemble sur la voiture électrique.
Lequel? Attends, là on est au 353. C'était le 451.
C'est ça, voilà.
451, et
où on a oublié de dire plein de trucs, mais c'est pas grave, on en refera une un jour. Je me suis aussi pris des messages genre, mais vous n'avez pas parlé de ça. Oui, bah écoutez, on n'est pas extensible à l'infini, on y pensera la prochaine fois. Et alors, si le sujet vous intéresse, évidemment, je vous engage à aller écouter Les Doigts dans la Prise, mon podcast à moi, qui a gagné de nouveaux abonnés depuis le rendez-vous des 451, donc je t'en remercie, c'est un plaisir. Et sinon, @Cédric sur Twitter, c'est quand même le plus simple pour me suivre.
Magnifique, merci beaucoup Cédric. Pour ma part, si vous voulez vous abonner à la newsletter dont je parlais tout à l'heure, notepatrick.com, il y a un petit lien pour s'abonner, c'est super facile, vous mettez votre adresse email et vous êtes abonné. Vous pouvez aussi vous désabonner quand vous le souhaitez, hein, évidemment. Vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech si vous faites partie de cette zone un petit peu grise. Hein. Est-ce que c'est famille, amis ? Non, c'est Patrick, comme le disait Rabert. Eh bien, vous pouvez soutenir, payer une bière à votre pote Patrick. Ça sera avec plaisir que j'apprécierai, que j'accepterai votre soutien sur patreon.com/rdvtech. Merci immense à tous ceux qui le font déjà. Et puis, si vous aimez le jeu vidéo, vous pouvez écouter le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu qui est disponible là, partout où est disponible le Rendez-vous Tech. C'est super simple. Vous vous abonnez, vous écoutez. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent en ce moment. Et puis, dernière chose, Discord. On y passe de très bons moments avec des gens sympathiques et bienveillants. Le lien est sur notepatrick.com. Twitch. On y passe de très bons moments pour l'enregistrement des émissions. Le lien est sur notepatrick.com. Et puis c'est tout. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses, grosses bises. Et on se retrouve dans une semaine. On va dire ça. À dans une semaine. Ciao à tous.